Ici Jean-Dominique Leduc
et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025.
Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez.
Bonjour Thomas-Louis.
Bonjour.
Bonjour Thomas-Louis.
Bonjour.
Bonjour Marc. On se sent comme dans un épisode de Mr. Rogers. Bonjour Thomas-Louis. Merci de nous recevoir dans l'arrière-boutique du kiosque de l'UNESCO à Angoulême. Mm-hmm. Alors, on voulait évidemment t'attraper au vol. Tu es le directeur de l'organisme Québec BD, donc intimement lié à ce qui se passe ici au niveau de la délégation québécoise. On t'attrape au début du festival, donc c'est la toute première journée. On est
plein d'énergie.
Oui, plein d'énergie. Et on est vraiment à la ligne de départ. Donc, en fait, je voulais revenir avec toi. Tout d'abord, question large, Thomas-Louis.
Qu'est-ce que Québec BD?
Oui! Pour le bénéfice de nos auditrices, auditeurs, j'aimerais d'abord qu'on définisse qu'est-ce que Québec BD et son mandat.
Oui. Bien, Québec BD, c'est un organisme qui est né du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Donc, un organisme qui, à la base, était uniquement un événement, mais qui s'est développé, qui a été créé, dans le fond, on a donné la nomination Québec BD à l'organisme pour refléter un peu plus ses actions qui dépassaient largement le festival.
Le festival qui a été fondé en
1988, voilà. Donc à Québec, se déroule en avril.
Ouais.
Donc,
Paris Cochet, la ville de Québec aussi. Dans le fond, ça représente tout le Québec.
Bien, pas uniquement la ville de Québec. Donc, c'est au niveau des actions qu'on fait, c'est sûr que le festival est à Québec. On travaille de prêt avec la Ville de Québec pour différentes actions, mais mon intérêt dans ce qu'on fait, c'est d'intégrer un peu les gens d'un peu partout. Donc, puis d'en faire bénéficier, même si on parle du pavillon UNESCO ici, où c'est la Ville de Québec qui est invitée, bien, c'est tous les auteurs du Québec qui sont présents à Angoulême qui peuvent y venir. Mais Québec BD, c'est sûr que actuellement, les actions qu'on fait en dehors du festival, c'est des choses, par exemple, des expositions qui peuvent être itinérantes, des expositions extérieures de la Ville de Québec. Il y a aussi des actions à l'international, donc représentation lors d'événements, que ce soit comme ici ou d'autres événements. Mais ça, des délégations, on en a organisé quand même pas mal au fil des ans, ouais. Que ce soit Saint-Malo, Colomiers BD, Lyon, avec qui on a des liens depuis 2011, et tout ça. Et c'est quelque chose qui s'est accéléré dans les dernières années. Donc là, ça fait 4 ans maintenant qu'on a des liens avec Angoulême durant le festival. Mais cette année, on était au Mexique, je suis allé en Suède, on a fait une tournée en Belgique puis en France. Donc c'est des actions qui se sont multipliées. Puis
ça fonctionne comment? Est-ce que c'est toi qui vas démarcher les festivals ou c'est les festivals qui contactent ton organisme pour, bon, on aimerait savoir des Québécois ou des Canadiens qui participent, tu sais?
Bien, c'est du cas par cas, je dirais, et c'est pas tous les festivals avec qui je suis en contact que je fréquente. Au sens où il y a des auteurs québécois j'ai pu envoyer des auteurs québécois dans des événements sans y être. Et il y a des événements pour lesquels on a démarché pour être présent. Par exemple, cet automne, j'ai fait le Centre belge à bande dessinée où on avait un week-end de programmation québécoise. Et le week-end d'après, c'était Quai des Bulles. Donc pour moi, c'était pertinent, tant qu'à faire le déplacement en Belgique, où on avait une invitation, d'être présent à Quai des Bulles. Donc, on a pris un kiosque là-bas pour représenter la bande dessinée québécoise avec la Librairie du Québec. Et ça permet de faire des événements, mais ce n'était pas une invitation formelle, mais ça permet d'assurer une présence. Puis il y a aussi des fois du travail avec les délégations du Québec, par exemple, ou l'ambassade du Canada dans certains pays, ce qui nous amène à développer des projets comme Guadalajara cette année, Guadalajara, qui était un projet, c'est la troisième année que j'y allais, c'est la première année où on avait un kiosque, c'était à l'invitation de la délégation du Québec, donc ils voulaient qu'il y ait une présence sur place, donc c'est vraiment du cas par cas selon les projets.
Alors, toi t'es arrivé en fonction comme directeur du Festival de Québec en 2005.
Exact.
À quel moment s'est amorcée cette réflexion-là d'élargir les actions pour finalement lancer Québec BD?
Bien, moi, je suis rentré en poste en juin 2005 et l'organisme était à reconstruire à ce moment-là. Et le premier événement que j'ai fréquenté, c'est Angoulême.
Ben d'ailleurs, on s'y est croisé en 2005. Moi, je me souviens de t'avoir croisé ici. Ouais,
Donc, janvier, c'était 2006, mais janvier 2006, effectivement, on s'est croisé. Donc, j'arrivais tout plein d'espoir en me disant « Je vais collaborer avec le festival d'Angoulême, on va faire des choses, tout ça. » J'ai déchanté assez vite en arrivant ici, en constatant l'ampleur de l'événement, l'ampleur des budgets aussi, des expositions et tout. Mais ça a permis de faire des liens, des premières rencontres avec Angoulême, mais des liens avec d'autres événements de taille peut-être plus petite. De penser qu'il y aurait des possibilités de collaboration à l'international. Fait que la première vraie collaboration à l'international s'est faite avec Saint-Malo en 2008, avec un intérêt, dans le fond, c'était le 400e de la Ville de Québec. Il y avait un lien Ville de Québec, Ville de Saint-Malo. Donc, ça a été une première présence d'amener des auteurs à l'international. Puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Enfin. Donc, c'est des choses qui ont été refaites par la suite à différents moments, que ce soit en Argentine, où je suis allé avec des auteurs, ou en France. Puis tranquillement, bien, les projets se sont multipliés. Là.
Au point où, finalement, vous avez fondé Québec BD, l'organisme qui englobe le festival, mais son mandat est élargi. Ce n'est pas seulement le festival.
Non. Le festival est rendu un des éléments
De l'offre.
De l'offre. Puis c'était le fait de créer la nomination, si on veut, Québec BD, c'était pour éviter la question qu'on se faisait poser tout le temps quand on faisait des projets avec le Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Ou si on faisait un événement ou une activité au mois de juillet, les gens nous disaient « Ah, c'est le festival! » Mais non, le festival est en avril, mais on avait des actions autres. Donc, on a créé cette entité-là, si on veut, là, en changeant de nom, pour représenter mieux, un peu dissocier, si on veut, le festival de nos autres actions. Pour simplifier les choses. Là.
Parce que le défi d'un événement comme un festival, c'est qu'il faut qu'il vive au-delà des dates où il a cours. C'est-à-dire que faire vivre un événement à l'année, parce qu'en fait, un festival, le but ultime, c'est de dynamiser le milieu, c'est de susciter les rencontres. Donc, mais ça se passe pendant les 4-5 jours d'un festival. Mais les 300 quelques autres jours de l'année, il y a une difficulté à pérenniser et à faire vivre un événement à l'extérieur de ces dates.
Oui, mais il y a des événements qui ne vivent que pour leur événement, ouais. Qui travaillent à l'année. Moi, le festival, je ne l'ai pas fait à temps plein pendant longtemps. C'est quelque chose que je faisais en plus d'autres mandats. Ouais. Donc, du moment que je m'y ai consacré à temps plein, c'est sûr que d'avoir des actions à l'année puis des projets, ça permet d'assurer des salaires, ça permet de dynamiser le milieu.
Alors là, Québec BD est fondé en 2016.
Québec BD, je crois que
Ça. Bon, alors là, on est en 2025. L'événement a presque 10 ans. Pas l'événement, mais l'organisme a presque 10 ans.
Mais dans le fond, c'est le même organisme pour lequel on a changé le nom seulement.
Mais l'entité Québec BD, donc, va célébrer l'année prochaine son 10e anniversaire. Oui. Alors, qu'est-ce qui... quels ont été les défis auxquels tu as fait face comme directeur et l'équipe? Parce que, oui, la bande dessinée se développe au Québec. Elle est de plus en plus présente dans les médias. Mm-hmm. On sent que, tout à coup, elle est aussi présente dans les institutions.
Oui, il y a un engouement qui est notable par rapport à en 2005, quand j'ai commencé, où c'était un peu anecdotique. La bande dessinée, tout à coup, ça a été pris au sérieux par la quantité, la qualité de ce qui se produit, les institutions s'y ont intéressées, les autres événements aussi. Donc, en termes de festival de bande dessinée, on a été le seul pendant longtemps.
C'est le plus vieux festival, celui qui a la plus longue vie en fait.
Puis, et des événements comme Gatineau qui sont là depuis longtemps, Montréal aussi qui s'est fait une place enviable, dans le fond, sur le paysage des événements à Montréal. C'est une grosse évolution, mais ça amène aussi, par exemple, on travaille très proche avec le Salon du Livre de Québec. Mm-hmm. Et là, c'est rendu que les autres Salons du Livre, vu la popularité de la bande dessinée, commencent à se dire, nous aussi, on veut. Donc, ça, il va y avoir une multiplication des événements autour de la bande dessinée.
Mais c'est comme trois rivières, mais des fois, c'est trop, c'est juste opportuniste. Dans le sens que je t'écoute, puis je trouve ça intéressant parce que c'est où que tu veux grandir. Parce que moi, je commence à voir les limites comme du Festival de BD de Montréal. Que, puis il parle aussi d'Angoulême, il y a un petit peu des trucs que c'est prendre des commanditaires, tout le temps grosser, cette idée-là, grosser. Puis il me semble que c'est intéressant aussi de se diversifier, comme tu parlais, toi, de faire un fonds, d'avoir un musée, pouvoir avoir un endroit, ouais, pour exposer des planches. Il y a des choses importantes au Québec que c'est par ces affaires-là, ça serait pas, comme le Festival de BD de Montréal, je les ai parlé de faire une expo de Julius Sey, ils ont essayé, ils ont dit qu'ils n'ont pas d'argent, tu sais. Mais
c'est sûr que les sous, c'est un enjeu, puis c'est un défi. Au-delà de ce que je disais, la multiplication des événements, on le voit particulièrement cette année. Il y a des festivals dans d'autres domaines qui tombent. Les théâtres coupent leur programmation, ouais, les organismes.
Justement, j'imagine que Québec BD fait face à des défis de taille, parce que j'ai l'impression qu'on vit à une époque où on est à la jonction d'un paquet de choses, notamment politique, où là, on resserre la vis.
Oui.
Alors, on sent que ces dernières années, Québec BD a pris une tangente, a épousé cette espèce d'ouverture du médium. Mais il ne faut pas prendre ça pour acquis pour autant.
Non. Mais le fait de multiplier les projets, c'est un peu pour assurer la continuité de ce, ouais, qu'on fait. Parce que d'amener des projets permet de faire croître l'équipe, qui va d'amener des budgets aussi autres, parce qu'on peut dégager certains budgets d'un projet pour les appliquer à d'autres lorsque possible. Fait que ça donne une situation financière qui est plus stable. Si on n'avait que l'événement, je pense qu'actuellement, on serait dans des situations qui seraient...
C'est donc dire pour rebondir sur ce que Marc a dit en évoquant le musée, j'ai l'impression qu'une des clés, c'est la médiation.
Oui.
Donc, c'est la multiplication d'événements, mais avec un angle de médiation, d'éducation.
Oui, puis au-delà du festival.
Oui, conservation.
De conservation.
De conservation
aussi, évidemment, avec un musée.
On pourra y revenir, mais au niveau de la médiation, on a travaillé beaucoup avec la Ville de Québec pour de l'animation dans les parcs l'été, avec la BD Tech Mobile, d'être dans des événements et pour amener la bande dessinée chez les gens, de leur donner des ateliers, tout ça, donc qui ne sont pas dans un cadre d'événements, qui sont gratuits, on va rejoindre le public. Puis dans le festival, c'est un peu ce qu'on fait aussi, où on est dans une trentaine de lieux. Donc oui, on a le pôle du Salon du Livre, où on voit les livres, il y a de l'animation, mais on est dans le Musée des Beaux-Arts, qu'on développe de plus en plus, le Musée de la Civilisation, puis dans la Maison pour la Danse, et un peu partout, pour amener la bande dessinée vers d'autres publics. L'idée du musée, de mon côté, c'est quelque chose que je pousse depuis longtemps. L'idée de la constitution d'un fonds, puis d'intéresser les instances publiques, mais aussi d'autres partenaires potentiels, que ce soit le Musée de la Civilisation, le Musée des Beaux-Arts à Québec, oui, et d'autres avec qui j'ai poussé longtemps l'idée de construire des choses.
T'as amené quelqu'un avec toi pour aller étudier un petit peu comment... Parce qu'hier, on a fait... Jean-Dominique a fait le don d'une planche de Pierre Fournier, puis on, mm-hmm, a vu plein d'originaux incroyables de Moebius. Ils ont sorti des Julie Doucet, il y avait Gasoline Alley, mm-hmm, puis du Schultz, du Charlie Brown, puis... Puis moi, c'est tout le temps, on parlait avec Stéphane de Marbelé de la Délégation 2000, puis c'était une exposition d'originaux qu'il y avait à Angoulême. Puis là, je voyais bien qu'avec les coupures de budget, on a plus des expositions de panneaux que, mm-hmm, des originaux. Mais les originaux, ça a quelque chose de magique, d'incroyable, qui est fort. Puis je pense que ça, des fois, je trouve que ça manque un petit peu, tu sais.
Ouais.
Qu'on retourne à ça, qu'on mette l'emphase sur des choses créées avec des mains, pas des choses imprimées qui sont, tu sais, qui est un petit peu loin de ce qui était à l'origine.
Mais il y a la magie, puis c'est ce que même au musée de la bande dessinée où vous êtes allé, l'exposition sur Marvel est une exposition où il y a des facsimilés.
Ouais.
Et quand tu le regardes, si tu ne le lis pas les cartels, tu vois pas qu'il y a des facsimilés tellement c'est bien fait.
Ben,
ça dépend des cas, mais c'est assez surprenant.
Parce que des fois, des originaux, c'est tu vois les défauts, tu vois le petit blanc, ouais, pour corriger, tu vois toutes sortes de choses. Puis c'est ça qui rend ça humain. Ouais, c'est ça que je disais à Jean-Dominique, quand j'étais petit, j'ai vu une expo à Drummondville d'originaux de la BD Franco-Belge, de Spirou, de Franquin. Puis là, la première fois, je voyais qu'il y avait des petites ratouches, on travaillait avec du blanc. C'est pas parfait, mais en même temps, le fait que c'est pas parfait, tu le voyais, Ouais. Tu disais, ah ben, peut-être je suis capable parce que, tu sais, puis il y a quelque chose là-dedans qui encourage, qui pousse à en faire plus. Tandis que quelque chose, des fois, des panneaux informatifs, c'est un autre domaine.
C'est un autre domaine, mais ça permet une circulation dans les bibliothèques. Ça permet bien des choses que les originaux, c'est plus compliqué. Ouais. Et de plus en plus, parce que le coût assurance, le coût d'encadrement, c'est très cher. Puis souvent, dans des lieux publics, il n'y a pas de sécurité. Donc, on peut prendre le risque, mais de refaire une exposition en bibliothèque avec des originaux de Franquin, par exemple, ici... peut-être en France, mais au Québec, par exemple, c'est à peu près impensable, parce qu'il n'y a personne qui va avoir une sécurité juste pour ça.
Mais c'est fou que ça était possible avant, puis c'est plus...
Non.
Tu sais, il y a des choses qu'on...
Mais la valeur des originaux n'est plus la même non plus. Puis la visite que vous avez faite dans les réserves du musée aussi, l'idée de pouvoir toucher les originaux, de les prendre dans les mains, de les regarder en détail, c'est quelque chose auquel le public n'a pas accès. Et même en encadrement, il y a une distance qui se crée. Ouais. Mais c'est vrai que ça manque. Et bien, nous, on va avoir la Maison de la BD à Québec qui va ouvrir ce printemps. Donc ça, c'est un projet justement qui résulte de l'intérêt qu'on a démontré depuis longtemps à la ville pour mettre en place un lieu d'exposition. On a fait une étude de préfaisabilité, même avec un projet conjoint avec la Manif d'art de Québec, pour un lieu d'exposition construit sur mesure, si on veut. Et on a eu l'espace 400e, mais c'est des choses qui sont très difficiles parce que les budgets explosent aussi. Un projet de 20 millions est rendu un projet de 40.
c'est le même principe que lorsqu'on fait des rénaux.
Le facteur COVID aussi a fait que tout est plus... Les choses qu'on a pu faire comme démarche avant là, sont plus chères. Et bien là, la Ville nous confie un lieu. Donc, on fait un projet pilote avec nous en nous confiant un lieu d'exposition dans lequel on va pouvoir exposer des originaux. C'est un peu le... Puis d'accueillir des expositions de l'extérieur avec des originaux. Donc ça, c'est des choses qui vont être intéressantes à surveiller. Mais ça ne sera pas uniquement... Parce que oui... Des originaux, il y a encore beaucoup d'auteurs qui travaillent à la main, mais il y a beaucoup d'auteurs maintenant qui travaillent en numérique, donc c'est de trouver d'autres façons de présenter leur travail aussi.
C'est aussi l'histoire, la mémoire, parce que je pense au l'expo off que Alexandre Lafleur et Caro Caron ont organisé, qui avait des originaux de Julie Doucet, de Valium, de après tous les gens qui ont fait Simon Bossé. Puis bon, eux autres, ils assuraient, ils étaient là, tout ça, mais il n'y a pas eu d'assurance qui ont été prises. C'était un petit peu underground, mais c'était fantastique. Mais
ça allait avec le thème aussi de l'exposition.
Ouais. En même temps, c'est une liberté. Ça a été fait.
Oui. Mais il faut se lancer pour le faire. Ouais,
Mais le FBM n'en a pas parlé. Puis, tu sais, eux autres, c'est comme on dirait, tu sais. Puis j'ai trouvé ça dommage parce que c'était une vraie expo d'originaux. Puis tous les gens qui ont été voir ça, ça les a touchés, ça les a stimulés. Puis, fait que je trouvais ça un petit peu dommage.
Mais le Palais Ontario est un lieu magnifique. Magnifique. Puis,
mais
c'est pas le premier projet qu'ils font non plus, qui met de l'avant l'underground montréalais. Puis, mais il n'y en a pas. C'est un lieu unique. Puis, dans notre cas, au niveau. Un des constats que j'avais fait aussi, c'est que. Oui, il y a des originaux de bande dessinée dans les collections publiques, que ce soit la BNQ, la Bibliothèque et Archives nationales du Canada, mais leur rôle n'est pas de les mettre en valeur, c'est de les conserver.
Oui, il n'y a pas un mandat de médiation de rattacher
autour de
ça.
Ouais. Et le musée de la bande dessinée à Angoulême, par exemple, puisque j'en ai discuté avec Vincent Hesch, qui est le directeur, avant le don... Une des choses qui le motivait beaucoup, c'est le fait que la planche de Pierre Fournier pourrait être prêtée à d'autres institutions pour être présentée en exposition.
Oui, pour qu'il y ait une circulation.
Ça tombe dans un fonds qui circule. Puis je pense que c'est ce qui est intéressant avec ça, de des lieux comme ça. Puis c'est un peu ce que je veux faire à Québec, de mettre en place un fonds qui soit en réseau avec d'autres lieux.
Parce que moi, j'en ai beaucoup d'originaux. Puis quand je vois ça à Angoulême, peut-être qu'il faudrait que je les donne à Angoulême, mais je voudrais les donner au Québec, tu sais.
Ouais.
Je voudrais que
puis il y a des fonds, que ce soit des fonds d'auteurs québécois ou même des fonds privés avec des œuvres étrangères au Québec, il y a des choses qu'il faut qu'ils restent au Québec. Puis ça n'intéresse pas nécessairement les musées ou qui prendraient une pièce ou deux pour avoir un exemple, mais moins sur l'ensemble.
Mais, encore là, c'est la mémoire. Aussitôt qu'on va pouvoir exposer toutes ces planches-là, montrer le travail de plein de générations, ben, il y a des gens qui vont voir qu'il y a une continuité sur le temps qui se fait sur plusieurs décennies. Donc, on va voir que ça a commencé à un point, puis ça continue, fait qu'il y a une évolution. Parce que des fois, on parle juste du présent. Puis c'est intéressant encore là de, tu sais, de travailler là-dessus.
Mais je vais vous donner un exemple. Je suis en train de travailler sur une exposition sur Raoul Barré. Raoul Barré, qui a publié 1900, dans la presse, tout ça, 1902, sa première planche, jusque dans 1923, à peu près. À peu près les seuls exemplaires qui existent de son travail en bande dessinée, c'est les microfilms de la BANQ. Donc des microfilms qui ont été numérisés, qui sont disponibles en ligne, mais qui sont une mauvaise photo noir et blanc de planches de bande dessinée, qui sont couleurs pour la plupart. Donc, les Sunday Pages, les pages du dimanche qui étaient pleines de couleurs, ces planches-là, il en existe des images qui circulent en ligne qui viennent des États-Unis, parce qu'ils publient aux États-Unis Nozark Hotel, mais francophones, j'en avais jamais vu. Les Contes du Père Rowe, qui sont une autre série qui a publié uniquement ici, les seuls exemples qu'on a, c'est du noir et blanc. Alors, pour l'exposition, j'ai fait scanner des pages de couleurs. Donc, on retrouve la vraie qualité.
Là, tu parles des pages originales ou des pages imprimées?
Les pages imprimées. Okay. Parce que les pages originales, je n'ai pas idée où ça peut se retrouver. J'en ai jamais...
Faut-il qu'elles existent encore? Là.
Mais elles ne seraient pas couleurs. Alors que dans les journaux, c'était publié en pleine couleur. Fait que là, j'ai fait scanner des pages, une page du Conte du Père Rowe, Noah's Ark Hotel, ou l'Auberge du Père Noé. Aux États-Unis, Billy Harlan avait une copie aussi que j'ai fait scanner. Donc, j'essaie de récupérer ça pour l'exposition, mais ça m'a juste montré la problématique, c'est que c'est un auteur, quelques pages, alors que je voyais du Albéric Bourgeois aussi, plein de couleurs et tout ça. Et le coût de numérisation est assez élevé à la BANQ malgré tout. Donc, je peux pas me permettre d'en faire 50 pages, alors que ça serait intéressant d'avoir qu'il y ait un projet de numérisation de ça, parce que le patrimoine qu'on a était assez riche, puis ce qui en reste, c'est malheureusement des mauvaises reproductions. Fait que j'ai fait scanner aussi la planche de 1902, qui est considérée comme la première bande dessinée publiée dans les journaux, mais c'était encore là l'image du microfilm qui circulait depuis toujours. Fait que là, j'ai fait scanner à partir de l'original, qui est noir et blanc, mais d'en avoir au moins une copie qui a plus de détails, puis où on voit la souplesse du trait. Mais c'est pas le rôle de notre organisme de faire ça à la base, mais je trouve important de le faire et d'investir un peu là-dedans parce que des originaux comme ça, 1902, de la presse, on a été chanceux de pouvoir le numériser. Peut-être que dans 10 ans, il va être trop fragile pour être ouvert. Fait qu'on est dans une fenêtre de temps qui est assez limitée, je pense, pour faire ça. Fait que je le fais par plaisir. Puis c'est la même chose quand je disais que je poussais depuis longtemps pour un lieu, pour les fonds, puis d'essayer d'en parler, puis que les gens soient au courant de la problématique. Bien, c'est des choses que je fais pas nécessairement par obligation ou pour le mandat premier de Québec BD, mais je le fais par intérêt personnel, là.
Alors, là, on est à Angoulême. Le festival vient de commencer cette année, en 2025. Il y a une délégation québécoise. Au niveau de l'histoire du Québec avec Angoulême, la première délégation s'est tenue en 1985. Donc, on est 40 ans plus tard.
Oui. Puis, est-ce que je me trompe pour dire que la ville de Québec était impliquée dans la première délégation?
Ça sera à vérifier parce que ça a été organisé par l'équipe du magazine Crow, en fait. Sur les 24 auteurs présents, autrices présentes.
Ou c'était en 2000, peut-être, qu'il y avait...
La délégation 2000, c'était Stéphane Lemardelé et William Swift. Il y avait, oui. En 2000, il y avait des auteurs de la Ville de Québec. D'ailleurs, il y avait... Lynn Arsenault, il y avait André-Philippe Côté.
Et j'avais vu un programme où il y avait un mot du maire, Jean-Paul Lallier, à l'époque.
Tu me poses vraiment une très bonne question.
Je te donnerai l'information, j'essaierai de retomber.
C'est parce que le Québec était invité d'honneur, comme ici en ce moment, c'est l'Espagne. Donc, c'est sûr que Québec est impliqué. Mais la ville de Québec elle-même, je ne sais pas.
Je vous retrouverai l'information, mais dans une des délégations, le programme avait un mot du maire Jean-Paul Lallier, puis un des partenaires principaux, c'était la ville de Québec. Je dis ça parce que c'est assez drôle de voir que les délégations des 4 dernières années, si on veut, il y a des choses qui ont été faites comme l'espace ici au pavillon UNESCO où la ville de Québec est invitée, qui permet d'accueillir des auteurs québécois. Mais il y a encore un lien.
Mais donc, quel est le mandat cette année de la délégation québécoise? Parce que là, il y a près d'une trentaine d'artistes.
Ouais, 26, ouais. Je crois. Ou...
Alors, qu'est-ce que Québec BD s'attend?
Bon, on peut-tu... Comment une délégation est choisie et recrutée?
Bien, ça, c'est une bonne question, mais c'est vraiment du cas par cas. Dans le contexte d'Angoulême...
Quand tu dis cas par cas, c'est...
Bien, ça va être cas par cas selon les projets, mais cas par cas au niveau des auteurs aussi. Il n'y a pas une constante par rapport aux auteurs qui sont présents. Dans la délégation canadienne et québécoise, cette année, on considère, oui, les auteurs qui viennent avec l'Espace Canada puis les éditeurs canadiens, les auteurs qui viennent pour le quartier jeunesse du Québec, puis on a aussi répertorié les auteurs québécois et canadiens qui sont dans le programme, donc avec qui j'ai été en contact aussi pour la plupart, et pour noter la présence canadienne. Donc c'est pour ça que cette année, il y a 26 ou 28 auteurs présents. L'an dernier, il y en avait 64. Le Canada était à l'honneur, mais c'est des auteurs qui participent par leur présence à la visibilité que peut avoir le Québec ou le Canada. Là. Mais au niveau de la constitution des délégations, par exemple, cette année, il y a le quartier jeunesse, donc avec la SODEC et le Conseil des arts et des lettres du Québec, il y a des éditeurs qui ont été sélectionnés pour présenter des ouvrages jeunesse et il y avait un auteur qui venait pour représenter leurs ouvrages. Avec okay. Ça...
Mais ça passe par toi ou c'est quelqu'un d'autre qui initie ça puis après qui...
Je suis dans les discussions... Donc, pour le quartier jeunesse, par exemple, j'ai été dans les discussions au départ, mais ça vient d'une volonté de la SODEC puis du CALC d'avoir une présence à Angoulême. C'est juste que moi, je suis là pour apporter des solutions. Au niveau de l'ambassade du Canada, qui est présente depuis 2021 à Angoulême. Donc, il y a eu une première visite en 2019 de gens de l'ambassade du Canada, avec qui j'avais fait le tour du festival. Puis, en 2021, il y a eu une première présence en ligne, parce que le festival était en numérique. Donc, le Canada était au marché des droits. Il y avait un mois spécifique qui était le mois d'avril, où c'était le mois Canada. Et il y avait eu un webinaire que Jean-Dominique avait animé d'ailleurs, qui avait été présenté dans ce cadre-là. Et la première présence physique, c'était en 2022. Donc, 2022, le Canada avait un kiosque au marché des droits, puis le kiosque à la bulle Nouveau Monde. Bien là, les auteurs, c'est les éditeurs présents qui les sélectionnaient. Il y a d'autres avec qui on démarchait pour obtenir du financement aussi. Puis c'est ça. Chaque année est différente, mais l'idée, c'est... comme cette année, au niveau du Stand Canada, les éditeurs s'inscrivaient et recevaient des lettres d'appui pour qu'ils puissent aller chercher du financement pour être présents. Mais le CALC a appuyé énormément d'auteurs aussi cette année, auteurs et autrices. Donc c'est vraiment... Je pourrais raconter l'histoire de chaque auteur pour dire comment il est venu, mais c'est vraiment... C'est un maillage... qui permet.
T'es un petit peu coordonnateur du tout une fois que c'est confirmé.
Ah, avant. Voilà. Dans le fond, moi, avec l'ambassade du Canada, on a commencé en juillet à mettre ça en place. Avec la SODEC, ça s'est présenté plus tard, mais étant donné que je suis là depuis quelques années à collaborer à cette présence-là, ben j'ai les contacts au niveau du festival lui-même, des gens qui sont en charge des différentes zones, puis ça permet de faciliter par la suite la présence.
Mais justement, moi, je vais en revenir au but de la présence.
Pourquoi?
Aux objectifs, aux mandats et aux retombées. Là, on ne peut pas parler de retombées puisqu'on est au début du festival, mais...
Mais on peut comparer par les années passées. Si je regarde, par exemple, Michel Quintin, qui était de la première présence en 2022, cette année, on a un nombre très grand de rendez-vous et tout ça, et eux constatent que de venir d'année en année, le réseau s'agrandit et ça devient de plus en plus profitable d'être présent.
Donc, ça permet à des structures éditoriales qui ne sont pas distribuées en Europe de tisser des liens et ultimement d'arriver à percer ce marché.
Oui, puis on le voit, ça peut passer par se trouver des avenues de distribution, parce qu'il y a des éditeurs, que ce soit Distribution Nouveau Monde, avec la Librairie du Québec qui va distribuer certains éditeurs, ou de venir ici pour chercher de la coproduction ou de la vente de droits. Je pense à Géant Pied d'Argile, qui est chez Moelle Graphique au Québec, et qui est publié chez Sarbacane ici. Ben, quand Marc McGuire et Alain Chevalier sont venus en 2023, ils ont pu participer à Shoot the Book, ils ont pu faire des liens, et c'est des choses qui, je pense, découlent de cette présence-là. Mais,
c'est sûr que l'impact à Shoot the Book, ils ont été forts, puis ils ont, je dirais, en bon québécois, ils ont clenché les autres.
Ben, parce que c'était les auteurs, le sujet, puis c'était les auteurs qui étaient là et qui parlaient avec passion de leurs livres, alors que je pense que les autres, c'était les éditeurs qui faisaient la promotion. Fait que des fois, c'est une façon de le présenter aussi, mais...
Puis c'est drôle parce qu'après, ils ont parlé d'amener les auteurs présenter leurs livres plutôt que les éditeurs. Fait que c'est une réflexion qu'ils ont fait après avoir vu le succès de Marc Palin.
Ouais.
Mais en même temps, Marc Palin s'était préparé, puis je pense que c'est aussi le sujet. Moi, j'étais là, je les accompagnais, puis beaucoup des présentations, je trouvais ça des dérivés de choses qu'on a entendues 10 000 fois.
Ouais.
Fait que peut-être qu'ils n'ont pas bien ciblé, parce que cette année, j'ai regardé, puis c'était beaucoup plus intéressant la sélection. Fait que je pense qu'ils sont raffinés. Là.
Mais tu sais, c'est important aussi de dire qu'on ne fait pas le travail des éditeurs ici. T'sais, c'est de donner l'opportunité ou de créer les occasions pour que les éditeurs... eux démarchent, eux fassent des rencontres et tout. Cette année, l'ambassade du Canada a engagé quelqu'un pour donner une aide aux éditeurs pour multiplier les rencontres, mais c'est la première année où ça se fait comme ça. Habituellement, il y a un appui, il y a une présentation des réalités, comment ça se passe, mais après ça, les éditeurs doivent démarcher eux-mêmes. Que ce soit l'ambassade du Canada ou la SODEC ou tout ça, personne ne se substitue au travail que l'éditeur doit faire. Puis chacun profite de l'occasion comme ils le veulent. Un éditeur pourrait venir ici, puis à la limite en touriste, et il y en a d'autres qui vont le faire très sérieux avec des rencontres cordées. C'est un peu comme les auteurs qui viennent ici, autrices, ils peuvent... peuvent démarcher auprès d'éditeurs, ils peuvent faire ou seulement venir pour
signer. Mais c'est ce qui est souhaitable au final, parce qu'on ne vient pas ici pour faire la fête. Là. Je veux dire, c'est bien de faire des dédicaces.
Entre autres.
Mais je pense, oui. Et c'est correct.
On appelle ça du réseautage.
Oui. Et c'est correct de fraterniser aussi et de réseauter. Oui, tout à fait. Mais parfois, les gens ont cette idée que dans un festival, c'est... On dédicace une heure et puis après, c'est parti, on bourlingue, on s'amuse.
À la limite, ça peut être ça, mais je trouve ça malheureux que si quelqu'un ne profite pas de son séjour ici pour se créer des liens, bâtir son réseau, des fois, il passe à côté de quelque chose. Parce qu'il faut dire que le Festival Angoulême rassemble des intervenants partout dans le monde, que ce soit l'Asie, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afrique, il y a des gens partout. Donc, un auteur qui veut se faire un réseau, être invité ailleurs pour présenter son livre, un festival comme Angoulême, c'est l'endroit idéal pour se faire des liens, repartir avec des invitations, rencontrer des éditeurs. Mais encore faut-il prendre le temps. Puis,
ouais, c'est quand même du travail. Là.
Oui.
Parce que moi, je l'ai fait, puis faut que tu prennes des rendez-vous, faut que tu ailles là, faut que tu pêches ton livre, puis c'est assidu.
Puis, il y a une question de personnalité des gens. Et on parlait de faire la fête et tout, mais pendant longtemps, les meilleures rencontres que j'ai faites se faisaient à partir de 11h le soir. Autour d'un verre à l'hôtel Mercure où tu rencontres des gens par hasard.
Mais au préalable, il y a un travail de réseautage qui se fait, au moins.
C'est oui, il y a du réseautage. Mais c'est d'avoir déjà une base de réseau qui t'amène à rencontrer d'autres gens.
Mais ça, c'est tout. Correct de fraterniser puis de faire la fête. Évidemment, c'est correct. Puis, comme tu dis, il y a parfois des accords qui se passent, entre des ententes qui signent...
À des heures pas possibles.
Oui, voilà. Et c'est correct.
Oui.
Mais voilà, moi, on m'a dit, ouais, mais là, tu t'en vas en Angoulême, mais qu'est-ce que tu t'en vas faire là-bas? Les gens font la fête. Tu dis, non, attends, c'est un festival, il y a beaucoup de travail.
Oui.
Et voilà, c'est une extraordinaire fenêtre pour justement, pour un artiste ou pour une structure éditoriale, en tout cas différents intervenants du milieu, de tisser des liens,
oui,
et d'élargir la pratique.
Mais faut se préparer avant de venir, faut se préparer. C'est sur place.
Oui. Ça s'improvise pas.
Puis sur place, avoir une flexibilité, parce que d'avoir un horaire de premier ministre. Ici, c'est le festival des rendez-vous manqués, d'un, et c'est parce que les gens sont pris, tout ça, et tu ne donnes pas la liberté de nouvelles rencontres, parce que tu vas croiser des gens, un éditeur intéressant, mais si tu n'as pas le temps de le rencontrer sur les deux jours parce que tu as trop de choses de prévues, tu passes à côté d'opportunités. Donc, séance de dédicace, mais ça peut être différents types de rencontres. Là. Mais faut se...
OK, je peux te faire une petite parenthèse. Quand tu parles de rencontres, il y a un aspect intéressant aussi de mise en valeur des auteurs, de leur travail, mais
ouais.
Il y a l'exposition. Il y a peut-être les séances de dédicace, mais moi, je mettrais ça. Puis il y a aussi des rencontres, des discussions devant le public, tout mm-hmm. ça. Puis des fois, il pourrait en avoir un petit peu plus à ce niveau-là, parce que on arrive ici des fois où on est perdu dans une mer de monde, là, surtout à partir d'événements.
Bien, pour les gens qui ne sont pas venus à Angoulême, vous en avez peut-être parlé, mais c'est un festival qui est éclaté. Il y a le musée de la bande dessinée et la bulle du marché des droits, c'est plus d'un kilomètre de distance avec une côte qui rappelle Québec, Hauteville-Basseville. Il y a des choses très intéressantes qu'on va manquer malheureusement, faute de temps, de se déplacer puis revenir à autre chose. Puis il y a des belles rencontres, puis il y a le festival lui-même. Et il y a tous les à côté. C'est le pavillon UNESCO où on est présentement, ça ne fait pas partie du festival. Techniquement, c'est un projet de la ville d'Angoulême qui est sur la carte de l'événement, mais la programmation ne relève pas du tout du festival. Il y en a plein d'initiatives comme ça. Il y a le festival de bande dessinée chrétienne, il y a le off, et tout ça. Ben, ces activités-là ne se retrouvent pas dans le programme officiel. Donc, le programme est déjà hyper chargé de plusieurs activités au même moment à différents endroits, en plus de ce qui n'est pas officiel. Donc, quelqu'un qui veut participer, et il peut être occupé à la journée longue sans aller aucunement dans les séances de dédicace, là.
Alors, Thomas-Louis, je le rappelle, c'est le jour 1 du Festival d'Angoulême, l'édition 2025. Donc, on souhaite en fait... on souhaite que cet événement-là soit positif pour toute la délégation québécoise, que ça permette...
Et canadienne
aussi. Et donc, d'élargir le champ des possibles, parce qu'au final, c'est ça le but.
Mm-hmm.
Et on te souhaite pas trop de repas protocolaires, parce que...
Des bons repas.
Oui, des bons repas. Mais tu parlais tantôt, c'est très pentu ici, donc... Si tu avais... OK, on va terminer là-dessus. Si tu avais un conseil à donner à... ou que tu as peut-être donné hier ou que tu vas donner aujourd'hui là, à une artiste ou en tout cas un intervenant du milieu qui vient pour la toute première fois participer au Festival d'Angoulême, qu'est-ce que ce serait?
Ne pas mettre de nouveaux souliers, des bons souliers, mais à la blague. Mais non, sinon d'en profiter pleinement puis de rester ouvert aux rencontres. De se mettre dans des situations où tu vas rencontrer du nouveau monde. Parce que des fois, il y a une tendance dans les délégations comme ça à rester en délégation. Et c'est vrai que souvent, puis moi, je reste à Québec, la plupart des auteurs sont à Montréal et tout ça, je vois des gens ici que je ne vois pas durant l'année. Donc, c'est des belles occasions de rencontre. Mais c'est bien de se mettre en danger un peu puis de partir à la rencontre d'autres gens dans des événements et d'essayer de sortir de sa zone de confort et de son réseau habituel, là. Mais d'essayer d'éviter de rester en groupe parce que c'est super le fun, mais des fois, tu passes à côté de belles rencontres.
C'est beau ce que tu dis parce que c'est applicable au monde en général, le nouvel ordre mondial dans lequel on vit, alors qu'on cherche à fermer les frontières et à se regrouper entre nous, soyons ouverts, allons vers les autres, soyons fleurs bleues, rêvons d'un monde meilleur. Thomas-Louis, merci beaucoup d'être passé à ce micro.
Sans problème, merci.
Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca/tribune au pluriel/catégorie au pluriel, /Angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.